Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Au cours de la longue crise du Covid, on a beaucoup donné la parole aux experts et aux décideurs politiques et finalement assez peu aux familles des victimes de la pandémie. Stéphanie Bataille a perdu son père, Étienne Graber, au début du mois de janvier 2021. Son père qui a contracté le Covid à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à l'issue d'une opération. Et elle dit sa colère dans un livre qui paraît aux éditions de l'Observatoire. « Mon histoire, c'est votre histoire ». C'est de ce livre que j'ai tiré mon récit. Elle sera là tout à l'heure pour le débriefer. J'ai écrit ce récit avec Tuc Duhal de Dieu le veut. Réalisation Céline Labras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Étienne Graber était comédien de théâtre et de cinéma. Pas célèbre, mais si vous allez taper son nom sur Google, D-R-A-B-E-R, vous direz forcément « Ah ben oui, ah c'est lui !» Il a tellement joué de second rôle au cinéma et à la télévision. On l'a vu dans Ridicule, Milou en mai, Prof, Les Cordiers jugés flics, et ici dans Les Sous-doués, une scène d'anthologie. Il joue un prof qui, devant une élève qui accouche, se transforme en accoucheur.
Regardez, c'est bon, ça commence, vous respirez à fond, vous bloquez et on pousse. Si tu pouvoir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Bloquer, respirer à fond, inspirer, bloquer, pousser. Si tu peux être amant sans être fou d'amour.
Étienne Graber est mort le 11 janvier 2021, emporté par le coronavirus. Sa fille Stéphanie avait encore quelque chose à lui dire. Et surtout, elle a quelque chose à nous dire. En novembre 2020, ça fait un an que tu attends une opération en raison d'une fuite de la valve mitrale. Elle a été programmée puis déprogrammée à cause du premier confinement. Mais là, ça y est, elle est fixée au 10 novembre. Batterie d'examen, analyse, tous les voyants sont au vert. L'anesthésiste est même venu te voir. Et puis au moment de t'installer dans ta chambre, le docteur vient te voir.
Monsieur Graber. Je suis désolé, monsieur Graber. L'intervention est annulée en raison du plan d'urgence Covid. Vous pouvez rentrer chez vous. On vous rappellera.
Tu es contrarié. Tu t'étais tant préparé psychologiquement. Quelques jours plus tard, tu reçois une nouvelle convocation pour le 13 décembre. Maman t'accompagne à la Pitié-Salpêtrière en début d'après-midi. Admission, examen, test Covid. Tu prends possession de ta chambre en cardiologie. Tu appelles tes frères, ta sœur, tes cousins, tes filleuls, tes amis, tes enfants. Je suis ton dernier coup de fil du soir.
C'est embêtant, hein, tous ces théâtres et ces musées fermés. Faut pas arrêter de créer. Créer, c'est vivre deux fois. Créer, bon sang, créer.
Le chirurgien t'a averti que tu seras opéré à 7h30.
Ne me demande pas à quelle heure je sors. Je ne sais pas. Est-ce que les familles des navigateurs demandent quand est-ce qu'ils rentreront? Ben non. Ah ben voilà. Je suis comme un navigateur.
Le lendemain, à 9h, tu m'appelles pour m'annoncer que ton intervention est décalée à 14h. Trop d'urgence avant toi.
Il doit y avoir plus urgent que moi. Ah. Ils m'ont dit ce matin que mes analyses étaient très bonnes et que mon test PCR était négatif.
À 18h30, maman appelle les infirmières pour avoir des nouvelles.
Tout s'est bien passé. Hein. Il est en salle de réveil.
Les visites sont possibles dès demain. Les proches peuvent venir l'après-midi entre 14h et 18h. Nous mettons en place un planning. Mon frère Stanislas viendra à 14h, il t'apportera ton déjeuner. Maman prendra la relève de 15 à 16h30 et moi, je terminerai la journée et je m'occuperai de ton dîner. Le 17 décembre, tu m'appelles vers 16h.
Dis-moi, tu peux m'apporter de la pommade rosate? J'ai les lèvres gercées. Et puis de l'eau pétillante, s'il te plaît, la plus froide possible.
Je te retrouve en fin de journée. Tu bois quasiment la totalité de la bouteille en 2 minutes. Et à travers les draps, je vois tes jambes qui tremblent. Tu me dis que tu as des courbatures. Ça m'inquiète. « Je ne suis pas sereine, mais je m'obstine à rester confiante. Enfin, tu as la pitié salpêtrière, c'est un hôpital réputé. Il n'est pas concevable que tu attrapes le coronavirus ici. De retour dans ta chambre, tu as encore très soif. Dis-moi, demain, tu pourrais venir avec plusieurs bouteilles de Salvetat ? Ce jour-là, je dépasse la limite de l'autorisation des visites. Je sens qu'il faut que je reste. Et soudain, un vacarme dans le couloir. L'homme qui distribue les plateaux repas ouvre la porte sans frapper. Il a son masque sous le menton et il parle très fort. « Allô, monsieur Drabert ? Debout, jeune homme ! C'est l'heure ! Faut manger !» Et là, il pose violemment son plateau sur la table de chevet, il prend le pichet d'eau et il en rapporte un autre, sans jamais se désinfecter les mains. Je le raccompagne dans le couloir.
« Vous devriez faire attention à votre masque, tout de même. »«
Oh, le masque, c'est de la connerie. Je prends peur du Covid. » Le lendemain, maman et mon frère Stanislas m'appellent pour m'alerter.
« Il tousse beaucoup, quand même. Il a certainement dû prendre froid. »
En fin d'après-midi, quand je viens te retrouver, je constate que tu tousses curieusement, par saccade de trois coups. Ta toux vient des bronches. Elle te fait mal. Et là, je cache l'angoisse qui m'envahit. Enfin, c'est impensable. C'est impensable que tu aies attrapé le coronavirus. Le lendemain, Stanislas m'envoie un texto. L'hôpital a appelé maman. Il faut que tu viennes de toute urgence. Papa aurait fait un AVC. Quand j'arrive, ta chambre est vide. Tu as été transporté en radiologie. Je ne tiens plus en place. Alors je me mets à faire les 100 pas dans le service. Et je m'arrête devant une chambre à deux portes de la tienne. Il y a des panneaux plastifiés scotchés dessus. Interdiction d'entrée, Covid. Il laisse donc un patient atteint du coronavirus en plein service de cardiologie. Je reste cloué sur place et je commence à me faire un scénario noir, aggravé par la présence d'une infirmière qui va de chambre en chambre sans aucune protection. Au bout de 3 heures, un médecin vient à ma rencontre, une femme de 35 ans, la mine décomposée, qui a du mal à soutenir mon regard. C'est très grave ce qu'a votre père. On ne pense pas qu'il s'en sorte. Mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'il se sorte de quoi ? Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas les résultats des IRM, ni du scanner. Depuis quand est-ce qu'on annonce des nouvelles d'une telle gravité, debout, dans un couloir ? On te ramène à 16 heures, allongé sur ton lit médicalisé. Vous êtes de la famille ?
Oui. Oui, je suis sa femme et là, c'est ma fille. Il n'a pas fait d'AVC. Mais il y a un problème, sûrement une bactérie. Est-ce que il vous a parlé de l'intubation ?
Là, je sors la balise de danger. Enfin, il y a 2 secondes, ils évoquaient une bactérie. Mais tu serais donc en détresse respiratoire ?
Docteur, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il a ?
Je ne sais pas. On ne sait pas. Les poumons, les reins, le foie, les intestins, le cœur. Nous sommes entourés de fatalistes qui tâtonnent, qui naviguent dans le brouillard, sans regard, sans affect, des animaux à sang froid. Je réclame qu'on te fasse un nouveau test PCR.
Mais enfin, c'est inutile. Un test négatif le 13 décembre ne peut pas être positif le 19. Hein ? Et de toute façon, il n'est pas envisageable d'effectuer des tests tout le temps.
Au fond de moi, une petite voix m'alerte. Il y a urgence. Décembre, tous les jours nous allons te voir. Ton état est stationnaire. Tu as de plus en plus soif et tu n'en peux plus du masque à oxygène. Je te regarde dormir. De temps en temps, tu ouvres un œil pour t'assurer que je ne suis pas parti. Je suis là. Je serai toujours là. « J'ai enfin réussi à me procurer la liste des lignes téléphoniques directes des médecins. Je me sens un peu coupable, mais je les appelle.
Pardon, docteur, de vous déranger. Pouvez-vous me dire où vous en êtes au sujet de la bactérie ?
On ne sait pas ce que c'est. Enfin, si, elle ne pousse pas.
Quelle réponse absurde ! Est-ce qu'on ne pourrait pas faire d'autres investigations ? C'est insupportable. Le 23 décembre, l'infirmière nous informe qu'ils t'ont changé de chambre.
On l'a mis dans la 217. Et pourquoi ? La 218 où il était une chambre Covid. Elle est équipée d'un sas et d'une double porte.
Je comprends alors que tu étais installé depuis 10 jours dans une chambre Covid en unité intensive de cardiologie. Une chambre peut-être même sûrement infectée. Comment est-ce possible ? Enfin, ils ont imposé à tous les citoyens de vivre dans la précaution à outrance. Lavez-vous les mains, tenez-vos distances, aérez vos appartements, portez le masque, plus d'embrassades. Nous vaincrons le coronavirus ensemble. C'est une blague absolue. Nous avons tout respecté à la lettre. Nous ne l'avons plus embrassé depuis mars 2020. Et à l'hôpital, on installe des patients négatifs, des personnes fragiles ayant subi une intervention, dans des chambres contaminées. Le 24 décembre, les médecins sortent de ta chambre avec un air dubitatif. Et ils disent à maman,
« On va quand même lui faire un test PCR, même s'il y a peu de chances que ce soit ça. »
Il était temps. 8 jours que je constate les symptômes.
Et quand est-ce qu'on aura les résultats ?
Demain, c'est Noël. Après-demain, c'est samedi. Après-demain, c'est dimanche. Disons lundi, au plus tard.
Ce jour-là, tu es énervé.
Steph, écoute-moi bien. Faut me sortir de là. Sinon, vous n'aurez que les restes.
En une fraction de seconde, j'essaie d'échafauder ta sortie. Mais je suis vite rattrapé par la logistique médicale, qui est indispensable à ta survie. Et puis, Stanislas me dit qu'il faut attendre le résultat du test. Le 25 décembre est notre premier Noël sans toi. À 15h, Stanislas et maman se rendent à l'hôpital. Tu n'es pas bien. Le 26 décembre à 15h30, Stanislas apprend le résultat de ton test PCR. Tu es positif. Je suis foudroyé, même si je m'y attendais.
Votre frère est déjà venu, donc vous ne pouvez pas. À partir de maintenant, c'est une visite par jour.
En fin de journée, le docteur m'appelle.
Je suis vraiment désolé de ce qui arrive à votre père. Vous allez rire. Que ce soit pas drôle du tout, pardon. Nous avons eu 12 cas de contamination dans le service de cardiologie.
Et dites-moi, docteur, le personnel est testé et vacciné ?
Ah non, non. On peut pas tester tout le monde. On manque de personnel. Puis on n'a pas de vaccin.
L'hôpital laisse donc travailler des soignants porteurs du virus alors qu'ils sont proches des patients. Des bombes humaines. 27, 28, 29 décembre. Nous partageons nos droits de visite entre nous trois. Et le temps qui nous est octroyé est de plus en plus restreint. 10 minutes. C'est odieux. Le 30 décembre, tu es transféré dans une unité Covid. Je viens te voir en fin de journée et je constate qu'il n'y a pas de gel hydroalcoolique à l'entrée. Et à gauche de l'ascenseur, il y a un papier mal scotché. Visite interdite en unité Covid à partir du 18 octobre. Je rencontre 2 jeunes femmes médecins. Elles semblent réciter leur texte par cœur. L'entretien est surréaliste. Je suis pétrifié. Je leur demande de te voir.
Ah non, non. On ne voit pas les patients ici. Les visites sont interdites. On les voit au dernier moment.
Au dernier moment ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ils ont déjà prévu que tu allais mourir ? C'est une triple peine. Enfin, tu as attrapé le coronavirus à l'hôpital. On t'a fait patienter plus d'une semaine avant de te tester. Et là, tu n'as pas le droit à des visites.
Dites-moi, quel est le numéro de téléphone de la personne de confiance? C'est-à-dire? Eh bien, la personne qu'on doit joindre au moment du décès.
C'est stupéfiant. Je repars comme un zombie. Tu es dans les mains de monstres. Qui a pu donner de telles directives? Il ne pense qu'à surprotéger. Mais qu'en est-il de l'amour? Enfin, aimer, c'est outrepasser les règles. Nous décidons, Stanislas et moi, d'aller quand même à l'hôpital. Et nous voilà plantés au bout d'un long couloir, condamnés par une porte coupe-feu avec un digicode. Une infirmière sort. Elle se veut rassurante.
Je vous propose de l'appeler en FaceTime. À 16h, ça va?
Et grâce à ça, nous avons la joie de te voir. Certes derrière un écran, mais c'est mieux que rien. Tu parles sans difficulté. Tu as l'air heureux de nous voir et de nous entendre. Tu blagues, tu ris, tu dis que tu as envie de boire une bière et même deux. Le 2 janvier, nous sommes au bout du couloir. C'est insoutenable de te savoir à quelques pas et de ne pas pouvoir te voir. Il y a de quoi devenir folle.
Je vous en supplie. On voudrait le voir puisqu'il va mieux. On s'habillera avec le même équipement que vous. On est même disposé à payer si c'est le problème.
C'est non. Nous sommes abasourdis par tant d'inhumanité. Le 3 janvier, nous apportons une galette des rois pour le personnel soignant.
Oh, je dois vous dire que vous lui manquez beaucoup. Il voudrait vous voir en vrai. Je viens un peu insister auprès des médecins pour qu'ils autorisent une visite. J'attends leur retour. Je vous tiens au courant. Tenez, je vous ai mis son linge à laver dans ce sac plastique. Et puis aussi, son manteau.
Pourquoi ton manteau? Tu n'as pas pu le salir, tu ne l'as pas mis en guise de peignoir. C'est un signe qui me mortifie. Est-ce qu'il nous prépare déjà à l'impensable? Les médecins ont refusé qu'on te voie. Le 4 janvier, maman est épuisée. Alors je l'ai soumis d'aller se faire tester. Et moi aussi, depuis hier, je ne me sens pas très bien non plus. À 17h, on m'appelle pour établir la connexion par visio. À l'écran, ta peur est palpable. Tu nous fais signe de nous approcher au plus près. D'un regard, tu sembles t'assurer d'être seul dans la chambre. Et puis froidement, tu nous dis
« Sortez de moi de là, sinon je vais crever !»
Cette affirmation est terrible. Elle est gravée à vie dans ma mémoire. J'appelle immédiatement le poste d'infirmière.
« C'est-à-dire, madame, qu'il commence le processus de glissement ?»
Autrement dit, tu te laisses aller. Le désespoir t'envahit. Tu ne veux plus manger. J'envoie un message de détresse au docteur.
Il faut que nous voyions notre père. Il nous réclame. Il fait la grève de la faim. On ne peut pas laisser les patients dans cette solitude. Pouvez-vous nous aider à lever cette interdiction qui n'a pas lieu d'être?
Maman vient de recevoir le résultat de son test. Elle est positive. Et moi aussi. Stanislas, lui, est négatif. « 8 janvier, 17h. Connexion en visio. Je constate que tu es allongé sur ton lit, tu es exténué. Ça ne peut pas continuer. Je tente de joindre le médecin, j'y arrive au bout d'une heure. »«
En fait, là, on peut pas vous parler. »
Et il me raccroche au nez. Alors je le rappelle, je lui dis mon mécontentement.
« En fait, là, on est occupé sur le cas de votre père. Il va mal. Un problème cardiaque. »
Stanislas obtient le droit de te voir 30 minutes en s'arnachant de la tenue Covid. Tu es brisé. Tu penses que nous t'avons abandonné. Le 10 janvier, le docteur me joint en début d'après-midi. Elle prend des pincettes. Sa gorge est nouée.
Votre père, père en autonomie cardiaque, il n'est pas confortable.
Que dois-je décoder? Où veut-elle en venir? En tout cas, elle lève le veto. On a l'autorisation de te voir avec Stanislas. Quand j'arrive, elle me tend l'attirail.
Il est très nerveux. Hein.
Je t'aperçois à travers le hublot de la porte. Tu es torse nu, tu te contorsionnes. Et quand je m'approche doucement, je découvre que tu as les poignets attachés de part et d'autre du lit. Ton bras gauche est tuméfié, il est bleu, un énorme dème. Tu te redresses et en s'appuyant sur tes coudes, mais pas paniqué, tu t'exclames très distinctement à travers le gros masque à oxygène.
Steph ! Steph, je gagne dans mon urine !
Papa, je suis là, je vais m'occuper de toi.
Honte totale ! Monstrueux, torture, bourreau ! Je baisse un peu le drap. Tu es complètement nu. C'est la première fois de ma vie que je te vois nu. Ils ont mis un linge matelassé sous toi. Tu marines dans l'urine, du milieu du dos jusqu'aux cuisses. Depuis combien de temps une infirmière n'est pas passée te voir ? Au minimum 3 heures ? Alors que tu es en unité cardiologie en soins intensifs.
Votre papa est plus calme. Mais on va commencer à lui administrer de la morphine, hein ? Pour qu'il soit plus confortable.
Non. Non, docteur, ça, je vous l'interdis. Ça, vous n'avez pas le droit.
Tu as tiré ta révérence un lundi, jour de relâche au théâtre.
Nous allons garder votre père dans cette chambre pendant 1 heure. Et ensuite, vous ne le reverrez plus. Les personnes qui ont le coronavirus sont placées nues dans une housse fermée, un body bag, et il n'est plus possible de les voir.
Ils n'ont plus aucune limite. L'immoralité est à son paroxysme. Nous sommes dans l'ère de la barbarie. Maman apparaît à ce moment-là, le visage diaphane. À son bras, elle a un sac de voyage, il contient les vêtements de ton dernier voyage, mais je lui apprends qu'il est interdit de te couvrir. Ni toilette, ni habillement. Le 16 janvier, à 7h du matin, nous voilà au funérarium de la Pitié-Salpêtrière.
Je vous ai porté des lettres de ses proches. Que je voudrais que vous glissiez dans le cercueil. Et ça, c'est un de ces nœuds papillons, j'aimerais que vous l'y mettiez aussi.
Entendu, madame. Voulez-vous que je fasse une photo quand j'aurai personnellement mis les objets dans le cercueil ?
Il n'y a plus aucune décence. Le monde a perdu la raison et sa boussole morale.
On nous présente ensuite un cercueil fermé.
Est-ce toi ? Nous ne le saurons jamais.
As-tu les mains jointes ? Nous ne le saurons jamais.
As-tu subi des ablations ?
Nous ne le saurons jamais.
As-tu été arrosé d'eau de Javel ?
Nous ne le saurons jamais.
Criez, je t'aime. Par-dessus toutes les souffrances qui vous sont infligées, contre toute pudeur, contre toute contrainte, contre toute malédiction, contre le dédain des brutes, contre le blâme des moralistes, criez le même contre un cœur qui ne s'ouvre pas, contre un regard qui s'égare, contre un sein qui se refuse. Vous ne le regretterez pas, car vous n'avez pas d'autre occasion d'être sincère. Tout le bonheur du monde dépend de l'intensité de votre cri qui passera de bouche en bouche à l'infini. Votre cri vous fera grand, et il grandira les autres. Il vient de loin, il ira loin. Il ne connaît pas de limite. Parlez. Les mots d'amour sont des caresses fécondantes. Les autres mots ne sont là que pour la commodité de la vie. Aimer, c'est l'unique raison de vivre. Et la raison de la raison. La raison du bonheur.
Poème de Paul Éluard que vous avez lu, Stéphanie, Bataille aux obsèques de votre père. Sur un extrait ici du concerto pour piano en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, puisque on a joué du Bach à ses obsèques. J'ai tiré, je le rappelle, cette histoire de votre livre qui paraît aux éditions de l'Observatoire. Mon histoire, c'est votre histoire. Alors, ce livre, évidemment, vous l'avez écrit très vite après, puisqu'il est paru au mois de juin, moins de 6 mois après la mort de votre père. J'ai trouvé qu'il était plein de colère et de ressentiment, et je voulais savoir si depuis la colère était un peu retombée.
Alors, quand vous dites mot colère, c'était plutôt un cri. C'est-à-dire que j'étais dans un état de sidération. Depuis le 11 janvier, j'essaye de me réparer par tout ce que j'ai vu. J'ai monté aussi une association parce que j'ai eu beaucoup de gens qui ont témoigné. J'ai plus de 8000 témoignages.
De gens qui ont vécu.
Des gens qui ont vécu la même chose. Exactement la même chose. Parfois même pire, si on peut dire pire. Il y a eu des incinérations immédiates. C'est-à-dire que normalement, on n'a pas le droit. Il faut attendre 48 heures. Mais au bout de 5 heures, quand la personne était morte, 5 heures après, incinérée. Est-ce que c'est tolérable?
En l'absence de la famille,
parfois. En l'absence de la famille.
Au premier confinement.
Au premier confinement. Quand vous parlez de colère, j'entends ce que vous voulez dire, mais c'est vraiment un cri, et je pense que c'était important d'alerter aussi la population, parce qu'on était évidemment enfermés et on ignorait ce qui se passait derrière, aussi bien dans les hôpitaux que dans les EHPAD. Tout ça par un manque de savoir et on n'a pas anticipé. Mais ça, c'est un autre débat.
Votre histoire, la mort de votre père se déroule pendant le deuxième confinement. Et est-ce que vous avez recueilli le témoignage de gens qui ont vécu des histoires similaires pendant le premier confinement? Parce que le deuxième confinement, on va y revenir, on savait beaucoup de choses sur la maladie. Pendant le premier confinement, en mars, avril et mai 2019, on ne sait rien ou pas grand-chose.
On ne sait pas grand-chose, non?
Mais c'était encore pire, j'ai envie de dire.
Bon, vous savez, pire pour pire, oui, enfin, tout est pire. Enfin, il n'y a pas d'échelle dans le pire et personne n'a le monopole de la douleur. Je crois que tous les gens qui sont partis lors de la première vague, c'était catastrophique. Des familles entières dévastées, et encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, des gens qui ne s'en remettront pas.
Privés d'obsèques,
cherchant les corps, se retrouvant devant une urne alors qu'ils n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches, ne sachant pas si les cendres sont vraiment les cendres de leur mari ou de leur femme, ou de leur père ou de leur mère. Enfin, c'est absolument dingue. Il y a eu des décrets qui ont été faits à la va-vite, à l'emporte-pièce, en oubliant le prendre soin. Ce qui nous est arrivé, évidemment, est dramatique. Cette pandémie est dramatique, mais on en a oublié complètement l'humain. Ça a été géré, évidemment, par faute de moyens. Ça, je le pense sincèrement, par faute de moyens et par faute de savoir, dans une urgence où les gens étaient, au niveau hospitalier, complètement rincés, épuisés, avec un manque de matériel évident, des lits fermés, des réouvertures de chambres sans personnel, donc ça ne sert strictement à rien. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se penche. Pour la vie de demain, c'est très important. Parce qu'une société malade ne peut pas se battre et ne peut pas être debout. Moi, j'aime l'idée d'être debout. Et pour être debout, il faut être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut des bons médecins et il faut des hôpitaux qui soient gérés par des gens de savoir.
Alors, dans ce livre qui est un cri, Stéphanie Bataille, il y a d'abord la question du diagnostic. C'est-à-dire qu'on comprend que vous qui n'êtes pas médecin, qui êtes directrice de théâtre, dès le début, vous envisagez qu'il ait contracté le Covid, dès le premier jour, en vérité, mais pas eux. Et on est là en décembre 2020, on sait tout, à ce moment-là, de la manière dont on contracte le Covid et comment il se manifeste.
Alors, la façon dont on le contracte, je crois que c'est encore un peu flou, même encore aujourd'hui, puisque il y a des gens qui l'attrapent, d'autres qui ne l'attrapent pas. Celui qui l'a ne peut très bien ne pas le passer à son voisin, mais peut le passer à la chambre d'à côté. Il y a des choses un peu particulières. En revanche, les symptômes, moi, pour avoir eu le Covid deux fois, on les connaît, les symptômes. La première fois a été plus douloureuse que la seconde. Je crois que, en fin de compte, c'est assez révélateur du personnel, que je n'incrimine pas, mais ils ont tellement de travail.
Quand même, ils ont du travail. Je veux bien que vous leur trouviez des excuses.
Ils ont beaucoup de travail.
Ils ont un type qui a de la fièvre.
Oui, mais ils ne voient plus rien. Je crois qu'ils ne voient plus rien. Voir est un art, Christophe Ondelatte. Et que les gens aujourd'hui ne se regardent plus, ne s'adressent pas. Aujourd'hui, on parle de la chambre 112, on ne parle pas de Monsieur Dupont ou de Madame Henriette, on ne nomme plus. Tout est chiffre. Donc on va directement à la machine, on regarde la tension, on regarde le rythme cardiaque, on prend un peu la température, on n'est que sur le chiffre, on n'est plus sur le regard. Avant, le médecin vous regardait. J'ai des souvenirs du professeur Cabrol que j'ai eu la chance de rencontrer. Il rentrait dans les chambres, il nommait la personne.
Qui était cardiologue, qui est l'auteur de la première greffe cardiaque en France.
Et qui était un homme exceptionnel, comme d'autres aussi. Mais il nommait, il vous regardait dans les yeux, et en vous regardant, il savait si vous aviez le moral ou pas. Et il faisait tout pour que vous ayez le moral. Aujourd'hui, c'est c'est complètement différent. On est sur le chiffre partout. Donc, on regarde la température, oui, bof, 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 et on est pressé. On est sur une course du temps, et cette maladie nous a montré aussi qu'on est à la course du temps, et qu'on ne prend plus le temps de s'occuper de l'autre, et de prendre soin. Moi, c'est vraiment... C'est ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'il faut prendre soin des gens, évidemment à l'hôpital, mais aussi dans la vie de tous les jours.
Il y a un médecin qui vous dit vraiment, un test négatif le 13 ne peut pas être positif le 19 en décembre 2020.
Oui, tout ce que je raconte dans le livre est complètement vrai. Hein.
Parce que ça, c'est pas une histoire de numéro, d'indifférence, etc. C'est tout simplement un manque de savoir. En décembre 2020, on sait très bien qu'un test négatif le 13 peut être positif le 15.
Bien sûr. Tout à fait, on peut le savoir, mais donc ils ne veulent pas retester en disant non, il y a pas de problème, il n'a pas le coronavirus. Mmh. Et moi, je vois évidemment que sa santé s'aggrave et qu'il montre tous les symptômes de ce virus.
D'ailleurs, à ce titre-là, il est fort possible que le test soit négatif quand votre père rentre, mais qu'il ait eu le coronavirus lorsqu'il rentre à l'hôpital. Ça, qu'il en soit déjà, c'est possible, techniquement.
Je n'en sais rien. En tout cas, mon père était vraiment complètement... on n'avait pas le droit de l'approcher. Ma mère faisait chambre à part. Il sortait très peu. Quand il sortait, il était seul. Il ne touchait rien. Vraiment, on a fait extrêmement attention. Tout est possible.
Mais pour vous, il l'a contracté à l'hôpital. Hein,
pour moi, il l'a contracté à l'hôpital. Mmh. Et pour moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre dans ce livre et le combat que je mène avec l'association que j'ai montée avec Laurent Frémont, qui est Tenir ta main, c'est-à-dire qu'on se doit de s'occuper de l'autre. Mmh. C'est-à-dire qu'un hôpital ne peut pas devenir un mouroir et on doit s'occuper des gens dans n'importe quelle situation et le droit de visite est obligatoire, Christophe Ondelatte.
Quand il vous parle d'abord d'un AVC et ensuite d'une bactérie, ça c'est quelque chose qui est un peu flou dans votre récit, mais à votre avis, il se doute qu'il a le Covid et il vous le cache?
Non, je pense pas.
Ils sont sincères.
Oui, complètement sincères. Mais je pense que les informations sont très très mal passées.
Non, mais AVC puis bactéries, non, mais AVC... tout ça en quelques heures.
Ah oui, c'est très curieux.
De la part de gens qui travaillent dans un service de cardiologie, je veux dire.
C'est pour ça que je m'interroge. Ce sont des sachants. Ils me décrivent le corps humain et tous les organes en très peu temps.
Ah oui, quand il dit le cœur, le foie, le poumon, enfin.
Exactement.
J'ai l'impression d'être dans Molière.
C'est Thomas Diafarus, oui. On est vraiment dans le malade imaginaire. Le problème, c'est que c'est pas imaginaire, qu'il est vraiment malade.
Donc vous êtes certain qu'au fond, ils ne savent pas depuis le début et qu'ils ont quelque part tellement honte qu'ils n'osent pas vous le dire et qu'ils trouvent de fausse maladie pour expliquer que votre père son état se détériore.
Je pense pas que ça se... Ils cherchent de fausses maladies. Je pense qu'ils cherchent et qu'ils ne savent pas. Je pense que tous les symptômes du coronavirus ne sont peut-être pas arrivés jusqu'en cardiologie. Je pense que...
Ils n'ont pas le temps de regarder la télé, alors. Parce que nous, qui sommes épidémiologistes depuis le mois de mars 2020, on sait, nous, en décembre, que lorsqu'on a de la fièvre et qu'on tousse...
Il y a de grandes chances.
Oui,
tout à fait. Mais comme ils font pas le test, ils vont chercher ailleurs. Et effectivement, un coronavirus très très violent peut produire des très grosses céphalées et peut également faire penser à un AVC, puisqu'il y a des troubles de la mémoire qui peuvent arriver aussi. C'est vrai qu'il y a différentes façons. Moi, j'ai eu le coronavirus de deux façons complètement différentes, personnellement. Mais donc, c'est vrai qu'ils auraient pu se rendre compte de ça. Mais ça, je peux pas aller au-delà de ce que je pense. Et je pense sincèrement qu'il y a eu des manquements, oui.
Alors, dans ce livre, parmi les questions qui sont soulevées, il y a donc la question de la prise en charge du Covid à l'hôpital à partir du moment où il est diagnostiqué. Vous découvrez d'abord qu'il a été placé donc dans une chambre Covid à sa sortie du bloc opératoire et vous envisagez l'hypothèse que cette chambre ait été infectée par le Covid, probablement mal désinfectée, et que votre père l'ait contracté dans la chambre. Mais de ça, évidemment, vous n'avez pas la preuve.
Non, c'est ce que je pense, puisque c'était une chambre Covid, qu'on nous a dit il faut le changer de chambre, puisqu'il est dans une chambre Covid. Et à côté de lui, il était dans une chambre seule, ça c'est très important de le dire, mais il y avait d'autres chambres en unité cardiologie soins intensifs, et il y avait un monsieur qui avait le Covid. Donc, il y avait du Covid en cardiologie. Je dis pas que c'est honteux, ou je ne suis pas là-dessus, mais je crois qu'il y a un principe de précaution qui a complètement été oublié.
Alors, il y a une autre piste que la chambre, il y a les soignants. Vous racontez des scènes qui sont extrêmement inquiétantes. Il y a donc cet agent qui porte les plateaux repas, qui a le masque sous le menton. En décembre 2020, on hallucine. On sait à ce moment-là que sans masque, on ne peut pas se déplacer en secteur hospitalier. Et puis, il y a cette infirmière qui passe de chambre en chambre sans se désinfecter les mains. C'est quand même une piste sérieuse qu'il ait été contaminé par des soignants qui ne respectaient pas les gestes de prévention.
Ah oui, mais bien sûr, mais même à l'entrée en cardiologie, dans le pavillon cardiologie, le gel est très loin, ou alors la bonbonne est vide. Les ascenseurs ne sont pas nettoyés, alors que l'on sait que par le toucher, je peux très bien toucher un bouton et après me gratter l'œil et je peux attraper le coronavirus. Donc il y a un problème aussi de nettoyage, il y a un problème de gens aussi. C'est-à-dire qu'on a tellement serré la vis, il y a beaucoup trop d'administratifs dans les hôpitaux, donc il n'y a plus de personnes pour pouvoir faire le ménage et pour l'accueil. Il aurait été intéressant d'avoir des jeunes, des étudiants, même en médecine, qui soient là pour aider, accompagner les gens. On rentre à l'hôpital, et c'est ça qui est formidable, comme dans un moulin. Là, on peut rentrer comme dans un moulin, puis jusqu'au moment où il sera en unité Covid, où c'est complètement interdit. Donc, c'est deux poids, deux mesures. On est un peu dans une vraie folie au niveau de l'organisation, mais ça montre bien que il y a un dysfonctionnement. Et c'est ce dysfonctionnement-là que j'aimerais,
avec votre association,
avec mon association, remettre, pas droit, parce que ça serait vraiment très prétentieux de ma part, mais d'alerter pour que les choses aillent mieux. Voilà, c'est juste mon but, c'est que les choses aillent mieux, que ça ne se reproduise plus, c'est ça.
À un moment donné, un médecin vous dit, en vérité, il y a 12 contaminés en cardiologie. Est-ce que vous savez ce qu'il est advenu de ces 12 personnes contaminées en cardiologie?
Non.
Votre père est-il la seule victime?
Je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a une enquête, je ne sais pas du tout.
Et ça, il y a une enquête.
Oui, il y a une enquête. Oui.
Alors, vous posez la question du vaccin. Bon, au mois de décembre, il n'y a pas de vaccin disponible. Encore, ils ne sont pas autorisés. En revanche, il vous dit qu'ils n'ont pas fait de tests PCR. En décembre 2020, les tests PCR sont largement disponibles. Et donc, on ne teste pas le personnel soignant.
Non, le personnel soignant n'est pas testé. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Ce qui est absolument incroyable, hallucinant.
Alors ensuite, il y a la question de la prise en charge des patients testés positifs. Autant donc avant, c'est laxiste, autant là, pour le coup, c'est raide. C'est très raide, vous n'avez plus droit à aucune visite. Et on découvre aussi, à côté de ça, quelque chose qui est récurrent en médecine, que racontent beaucoup de gens dans des histoires que j'ai pu raconter précédemment depuis 6 ans, c'est l'incapacité des médecins à parler aux familles, au bon endroit, au bon moment, avec les bons mots. Et ça, vous en êtes témoin. Il y a des médecins qui ne savent pas dire, bah oui, le pronostic vital est engagé. Et le dire assis dans un bureau, calmement, avec les bons mots, quoi. On vous le dit dans le couloir.
On me le dit dans le couloir, on ne me regarde pas dans les yeux. On me le dit de façon très métal, donc ça montre aussi qu'au niveau de l'enseignement, il y a quand même un gros manquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours de psychologie, et puis surtout, il n'y a pas de cours sur la mort. Il faut savoir qu'en médecine, ils ont 2 heures de cours sur la mort. Comment peut-on parler de la vie, de la réparation, de la restauration d'un corps, sans parler de la mort? Moi, ça, je suis fascinée par ça.
Mais il
n'y
a pas de
monde.
Cours, mais on peut aussi soi-même, à l'usage, improviser.
Bah, écoutez, non, si vous n'avez pas la formation, il y en a qui ne savent pas le faire.
Ils ne sauront jamais.
Ben, je pense qu'ils ne sauront jamais. Non, je pense qu'il y a...
Ça, c'est un sujet, on parle depuis au moins 20 ou 30 ans.
On en parle beaucoup, ouais, bien sûr, ouais. On parle de ça, on parle également de l'euthanasie, mais je crois que c'est très important de pouvoir parler de la mort. On l'a complètement caché pendant cette pandémie, la mort. On ne l'a parlé qu'en chiffres. On n'a pas parlé du tout des déflagrations sur les familles. Moi, j'ai des familles qui sont atomisées. Je connais des gens qui sont atomisés, qui ont perdu leur emploi, car ils ne peuvent plus travailler, qui sont dans une tristesse abyssale. On n'en parle pas. Tous les soirs, on vous parle de chiffres,
oui.
Mais ce sont des hommes et des femmes qui sont partis. C'est pas rien, vous voyez, vous comprenez. Et dans des conditions qui sont innommables, innommables.
La scène du manteau est absolument terrifiante.
Ah, ça m'a... Et ça continue encore à me hanter.
Parce que vous la comprenez tout de suite, vous.
Ah, moi, ça fait un déclic. Mon frère ne comprend pas tout de suite. Il dit
on
oui,
vous rend le manteau parce qu'on sait qu'il n'en aura plus besoin.
Voilà, qu'il ne ressortira plus, qu'il n'aura pas besoin de son manteau pour le mois de janvier. Oui. Ça, c'est très, très troublant.
Mais on ne sait pas vous dire autre chose que voici son manteau.
Oui, accompagné d'un sac plastique avec ses vêtements à laver. Voilà le manteau. C'est raide, hein. Vous savez qu'il faut être fort, hein, pour prendre tout ça. Ce manque de formation, ce manque d'humanité, c'est que vous appelez ça une colère. Moi, pour moi, c'est un cri, parce que je trouve que c'est vraiment très important de remettre l'humain au cœur de l'hôpital. Voilà, ce ne sont pas des choses, les gens ne sont pas des choses. Mais aussi bien de l'hôpital que de la société. Parce que cette crise aussi est très révélatrice de la façon dont on peut traiter les gens. Il y a des choses formidables qui ont été faites. Hein. Je ne suis pas du tout en train de canarder tout, ce n'est pas vrai. Mais on a oublié, je pense, très important, l'essentiel. Voilà.
Concernant les conditions de la mort de votre père, vous semblez dire qu'il a été euthanasié, en vérité, sans votre consentement, et sans que vous n'ayez été consulter, ce qui est contraire à la loi Leonetti, qui implique une consultation de la famille. On a poussé la morphine contre votre avis.
Mm-hmm.
On est d'accord.
Oui, tout à fait. En disant que j'étais dans le déni, ainsi que mon frère, et que mon père souffrait, alors que j'aurais bien voulu, au lieu qu'on me dise qu'il souffre, j'aurais bien voulu qu'on prenne soin de lui. Et ils ont appuyé sur la seringue de la morphine, enfin, sur la poche de la morphine. Il est parti ainsi, en disant, voilà, c'était mieux de faire ça, plutôt qu'il souffre. Mais si on l'avait mis sous Optiflo, ce sont des lunettes absolument incroyables. Imaginez des lunettes avec deux petits tubes qui vous rentrent dans le nez, oui, qui vous envoient des doses d'oxygène très très fortes. Et ça, ça a vraiment sauvé beaucoup de gens du coronavirus. Et il y a des gens qui ne supportent pas le masque. Donc ils lui ont laissé le masque, ils lui ont attaché les mains sans nous prévenir et on l'a laissé tout nu. Comme mettre un patient tout nu, ça n'existe pas, ça non plus. Voilà, il y a quand même...
Dans son urine. Pendant 3 heures.
Pendant 4 heures.
4 heures.
Ce qui est quand même fou.
C'est et fou. À la fin, donc il y a un sujet pénal, là. Si les conditions d'application de la loi Leonetti ne se sont pas appliquées, alors il y a un sujet pénal. Est-ce que vous avez porté plainte?
Oui, j'ai porté plainte contre X.
Aux conditions de la mort de votre
père. Bien sûr, tout à fait, j'ai porté plainte contre X et mon avocat s'en occupe... En ce moment, et je crois que c'est très important parce que à un moment donné, on peut pas tout accepter. Je ne le fais pas de façon belliqueuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop et puis que tous ces médecins se remettent en cause. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas une justicière. C'est pas ça.
Parce qu'il y a tout un débat autour de la judiciarisation de la société, l'abus de procédure qui encombre les tribunaux. Au fond, l'incompréhension qu'on aurait à travers les procédures du fait que la médecine n'est pas un métier exact.
Oui, mais moi, je ne peux pas accepter l'inacceptable. Il le disait, mon père, un médecin vous dira toujours, ou un chirurgien, après une opération, si l'opération ne s'est pas bien passée, dans l'occurrence, si le patient ressort mort du bloc, et ben, c'est le patient qui n'a pas supporté. Donc, on met tout sur la faute du patient. Je comprends cette phrase, je l'entends, je ne dis pas que je suis complètement d'accord, mais je trouve qu'il est indispensable de pouvoir se remettre en question et d'arrêter la robotique. Les médecins ne doivent pas être des robots. Il y a des médecins extraordinaires que j'ai rencontrés dans ma vie, et puis il y en a d'autres, poussés par une certaine pression, aussi par la volonté du petit chef, comme le petit chef qui dit « Non, vous verrez votre père au dernier moment », je trouve ça inacceptable. C'est quoi le dernier moment? Qui peut fixer le dernier moment de la vie de quelqu'un? Personne. Personne.
Après la mort, alors là aussi, il y a débat, vous semblez dire, vous, qu'il n'y a aucune raison valable d'empêcher les familles de se recueillir auprès du corps, au funérarium, comme on le fait dans tous les autres cas.
Donc là, on bannit aussi les rites funéraires. Le coronavirus a démontré ça aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rites funéraires, c'est de la fin d'une civilisation. On sait très bien que le coronavirus s'attrape avec la respiration ou des petites gouttelettes, comme on nous l'a expliqué.
À partir du moment où il ne respire plus, il ne transpire plus.
Généralement, quand on est mort, il y a beaucoup de difficultés quand même à ce qu'on respire encore, ou alors donc la personne n'est pas morte. Donc cette interdiction de voir le défunt n'a aucun sens. Ce sont des mesures totalitaires, complètement folles et iniques, qui peut pousser vraiment à des très très grosses dépressions. Ne pas savoir si c'est la bonne personne qui est dans le cercueil. Je sais qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. On n'a pas enterré les bonnes personnes. Moi, je ne sais pas si c'est mon père qui est dans le cercueil. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas revu. Donc, je trouve ça...
Ça peut nourrir des malheurs pour une vie entière.
Bien sûr. Bien sûr, des vraies angoisses. Alors, évidemment, il n'est plus là. Après, il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas grave si c'est pas lui. Alors, dans ces cas-là, plus rien n'est grave, quoi. Vous comprenez? On est quand même dans une déliquescence à la fois de la morale et de l'éthique. C'est ça que j'essaye de montrer et d'éclairer. Voilà. Je ne suis pas dans l'ombre, hein. Je souhaite une lumière bonne et réconfortante et j'espère, évidemment, qu'il n'y aura pas d'autre épidémie. J'espère que celle-ci va s'éteindre très rapidement, mais il va falloir réfléchir à demain, si jamais il y a une nouvelle épidémie. Comment fait-on?
Pour être plus humain et moins administratif et moins technique.
Bien sûr. Et puis pourquoi ne pas pouvoir visiter alors que les infirmières peuvent rentrer dans une chambre? Nous, on a proposé, beaucoup de familles ont proposé de s'habiller de la même façon que les infirmières pour aller voir leurs proches. On nous dit non. Ça, c'est terriblement dévastant, quoi. Ce non. C'est tellement formidable de pouvoir dire oui et trouver des solutions. Je sais qu'il y a des directeurs d'hôpitaux qui l'ont fait en France en disant ça, il n'est pas question que les familles ne puissent pas voir leurs proches.
Mais c'était à l'initiative individuelle des directeurs.
Oui, c'était exactement, tout à fait.
Votre livre s'appelle « Mon histoire, c'est votre histoire ». Je le conseille vivement.
Merci
à
beaucoup.
Tous ceux qui s'intéressent à cette crise du Covid-19, signé Stéphanie Bataille aux éditions de l'Observatoire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.